Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va passer à la deuxième chronique et c'est l'âme qui va nous parler d'exécution.
Eh oui, tout à fait. C'est évidemment une chronique qui me tient à cœur, puisque je joue à Hades, incroyable. C'est pas comme si vous spammez avec ce jeu depuis qu'il est sorti.
C'est vrai.
Et je sais pas si vous avez joué à Hades.
Bah non, pas encore.
J'ai regardé jouer.
Bon bref, donc voilà, le jeu est incroyable. Mais ce que j'adore faire dans Hades, c'est ce qu'on appelle la dash attack. Donc en gros, comme son nom l'indique, tu dash et t'attaques. Et quand tu appuies sur les deux boutons en succession rapide, tu as une nouvelle attaque qui te permet de foncer sur l'adversaire avec en général une attaque assez puissante. Et donc voilà, je pense qu'on a vu ce genre d'attaque ou ce type de mouvement dans à peu près 3 millions de jeux vidéo. Mais à chaque fois qu'un jeu vidéo propose ce genre d'attaque, je l'adore. Et en fait, je l'adore tellement que je le spam. Donc vraiment, vous savez, ce moment où en fait, tu sais plus si tu as appuyé sur dash attack ou si tu bourrines les deux boutons en même temps. Et ça te fait des dash attaques, tu fais dash attaque, ou tu sais plus quoi. Et en fait, tu te retrouves à foncer dans les ennemis, foncer dans des pièges, dans des murs, aller dans la lave, revenir, etc. Enfin, heureusement que le jeu est assez permissif là-dessus. Et en fait, je me rends compte que souvent, quand je joue à Hades, je fais un boucan de ouf parce que je bourrine les boutons, je sais globalement ce que je fais, mais je maîtrise pas exactement ce que je fais avec cette fameuse dash attaque. Et puis après, il y a les fameux boss de Hades que je vais pas vous spoiler, qui sont très intéressants. Et il y a ces fameux moments où, quand tu te tapes des boss de jeu, il y a la fenêtre de tir où tu peux les frapper un certain nombre de fois avant qu'ils commencent à attaquer un nouveau truc, une AOE ou que sais-je, pour te repousser, ou alors tu dois faire une roulade ou une esquive. Et tu sais qu'il faut caser, aller 3 coups max d'épée lente ou alors 5 coups de petit nunchaku de
oui,
petit
pas trop.
Ce que tu veux. Ah oui. Bah, tu vois, le fameux truc genre, tu as ta petite phase où tu peux frapper, après tu fais une roulade ou une esquive méthodique. Et non, c'est la manière noble, propre, demandée par les développeurs d'affronter ce genre de boss. Et puis finalement, moi je suis parti de l'école des mecs, il y a une fenêtre qui s'ouvre, je bourrine 35 fois le bouton de frappe. Et évidemment, quand je bourrine 35 fois le bouton de frappe, je les touche beaucoup plus de fois, mais lui en même temps, il continue à me frapper, c'est le bordel à l'écran, on comprend plus rien. Je ne respecte pas du tout le rythme demandé, l'exécution et le calme qui est demandé. Et effectivement, bon, je viens de recevoir ma PlayStation 5 et comme beaucoup de joueurs et de joueuses, Dark Souls sera parmi mes premiers jeux. Et je sais que Dark Souls et comme tous les jeux From Software, on demande du timing et de la rigueur. Je vais les tenir les premières minutes ou les premières phases. Et à un moment, je vais
être bourré.
Un truc de bourrin. C'est ça, à un moment, c'est bourrin land. Et ça m'arrive tellement, donc c'est vraiment un truc que moi en tant que joueur qui m'a toujours suivi cette manière de jouer, de tenter de jouer un peu clean et de mettre à bourrer mes boutons au bout d'un moment, quel que soit le jeu, et j'en arrive à me répéter mentalement qu'il faut que je fasse une pause régulièrement quand je vais rentrer dans un genre contre un boss, au moment ça va se corser, je vais commencer à faire n'importe quoi, ou en tout cas de penser à sortir de ce tunnel de panique, ce moment où tu exécutes sur ton contrôleur de jeu, puis ce moment où en fait tu bourrines sur ton contrôleur de jeu. Souvent en fait, je dois me le rappeler littéralement comme un petit mantra genre calme-toi, ressors de la situation, ressors du tunnel, fais une pause de 2 secondes avant de relancer le jeu. Enfin vraiment, sors de ce truc-là. Et je pense qu'on connaît tous et tous ce sentiment, ce petit point de non-retour où tu perds le contrôle, et chacun et chacune a un niveau un petit peu différent. Je pense notamment à toi, mon cher Daz. Comme quand c'est une chronique. Daz, pour qui la relevée dans Street Fighter 4, ça s'appelait plutôt le tacos 9 viandes de Chloé. Vraiment. Je sens que au moment où il va se relever, dans les quelques frames, jusqu'au moment où son perso va devenir actif, boutons sont bourrinés, ça fait un boucan de ouf.
J'avoue.
Voilà, dans nos longues soirées Street Fighter, à chaque fois que je me battais contre Daz, il y a toujours le moment où tu entends. Vraiment, mais genre c'est automatique, c'est littéralement automatique. Et lui, comme moi, il sait qu'il va bourrer les boutons, bref.
Et ça passe. Et ça énerve, mais ça passe.
Des fois, ça passe. Et du coup, je pensais aussi à Fibre, puisque Fibre, t'as fait une très bonne chronique sur la classification, justement, des jeux vidéo. Et la catégorisation des jeux vidéo via d'autres critères que le genre. Et notamment avec l'intensité des inputs, donc les fameuses APM, les actions par minute, que je trouvais très, très intéressante. Et ça m'a fait penser, en fait, à ça au moment où on va dire que tu restes un peu dans le spectre des APM pensés par les développeurs. Et puis, à un moment, en fait, tôt ou tard, j'explose dans n'importe quel jeu un petit peu d'action. Donc, dans ma tête, j'ai toujours appelé ça un peu la panique d'exécution. C'est vraiment le moment où, mécaniquement, je switch et je me mets à bourriner. Je l'ai un peu trouvé. Alors, j'essaie de, c'est fait exprès, hein, je suis pas un feignant. J'essaie de pas trop me renseigner, de pas trop Wikipédier toutes les formes de syndrome ou des choses comme ça, mais vraiment de voir d'où ça venait. Je pense que je suis quelqu'un qui a atteint qui est un peu dyslexique au bout d'un moment. Et en fait, je me rends compte que depuis que je suis enfant, on essaie de me faire des instruments de musique ou des choses comme ça, comme beaucoup de gens, il y a un moment où je m'emmêle les pinceaux.
Ouais.
Et là où je vois d'autres élèves ou ma sœur qui faisait du piano avec moi passer certains caps. Et moi, en fait, bah, littéralement, je cap, comme disait l'anglais, quoi. Je stagne à un moment où je n'arrive plus à me synchroniser, j'arrive plus à m'y retrouver, j'arrive plus à gérer tous mes doigts sur les touches, etc., etc. Et c'est toujours un truc qui m'a vraiment suivi. Et donc, dans tous les jeux, il y a ce moment assez précis où je sais que j'ai atteint mon pic d'exécution et que je rentre dans dans le trou noir du bourrinage. Donc, on a toujours joué à Guitar Hero. Moi, ouais. Guitar Hero, je m'en sors très bien. Et quand il y a le cinquième doigt qui rentre en jeu, enfin, le quatrième doigt pour gérer les cinq touches.
Et c'est la fin du monde.
Littéralement, pour moi, c'est le jour et la nuit, quoi. Et vraiment, j'ai essayé et c'était le jour et la nuit. Je n'arrivais pas à replacer mes doigts quand il fallait décaler d'une touche, etc., etc. Dans Street Fighter, c'était les fameux les entraînements où, à un moment, quand tu arrives au fameux truc où tu dois faire dash, cancel, donc tu fais un dragon punch, puis ensuite tu le cancel, tu dash deux fois en avant, et puis là, faut tout relâcher pour pas bourrer, et après refaire, je sais pas, une fury ou ce que tu veux, j'y arrivais pas. Dans Tekken, on a tous vu ces fameux combos Tekken, les 10 hits à l'époque de Tekken 1 ou 2 dans les entraînements. C'était un peu le combo ultime dans le mode entraînement de Tekken, c'était faire les 10 hits où il fallait faire des neutrales, des décalages, des frappes. Moi, c'était le moment où j'abandonnais. Et donc, dans les roguelikes, comme Hades ou comme Dead Cells notamment, il y a ce moment où je me perds littéralement. Et ça, c'est physique. Et après, je me suis aussi rendu compte en faisant cette chronique qu'il y avait aussi une forme de switch mental aussi, avec quand je suis débordé mentalement. Ça veut dire que quand je joue à un jeu, au-delà du fait qu'il faille exécuter ou avoir des réflexes, etc., il y a un moment où je commence à ne plus arriver à garder en tête tous les critères et les éléments de jeu qui vont permettre de mieux jouer. Donc, l'environnement, notamment, est-ce que tu es sur de la glace ou de la lave, est-ce que c'est un environnement serré, ouvert, combien d'ennemis, quelle est la typologie des ennemis, les skills qui sont à ta disposition à ce moment-là, les équipements, ton build, et à un moment, en fait, toutes ces choses-là que je n'arrive plus à les mémoriser, en fait. Et je rentre dans des trucs où je vais faire dash attack comme un gros bourrin ou d'un truc un peu on va dire primaire par rapport à toutes les possibilités que je me suis offertes en avançant dans l'aventure. Et en fait, mentalement, pareil, je rentre en panic mode et je commence à perdre petit à petit de mon esprit, de ma vision, tout ce que je peux faire, tout ce qui est à faire ou pas à faire. Et j'ai ressenti ça la première fois quand j'ai joué à Diablo 2 avec des potes. Donc je sais pas si vous avez déjà joué à Diablo 2 ou globalement vous avez fait du PvE sur des MMO à la World of Warcraft.
Ouais.
Où en fait t'arrives et puis tu dis ok, alors un tel il va arriver, il va se mettre au milieu et en fait il va servir de tank. L'autre il a une AE, donc restez bien dans l'AE pour ensuite que votre heal soit plus 120% et que votre régénération d'ANA soit là. Toi t'as ton truc, ton DPS, tu vas le faire grossir toutes les 4 secondes en appuyant sur ce truc sur toutes les 4 secondes parce qu'en fait du coup ton coup en mana remontera juste assez pour que tu puisses le faire non-stop. Enfin, vous voyez le genre de truc qu'on s'organise à un certain niveau, donc du PvE au level, pour que tout se passe bien. Moi, au bout d'un moment, je spam tous mes skills dans tous les sens. Je maximise pas du tout mes cooldowns et j'attends même pas le buff d'un pote. Je sais même pas ce qu'il fait, quoi. Vraiment, je suis fou.
Ouais.
Je vois plus rien. J'envoie toute la sauce là où je vois mes potes à côté de moi qui sont là, genre, OK, dans 7 secondes, OK, touche 2. Dans 4 secondes, OK, la touche 1. Attends, je me cale là, je fais ça. Je suis, moi, dans Diablo 2, j'étais paumé. Et le summum de tout ça, donc pour moi, la panique d'exécution mentale et physique, c'est le MOBA. Donc le MOBA, j'ai joué genre des milliers d'heures à différents MOBA et surtout à Dota 1, Dota 2 et un petit peu à Heroes of the Storm. Et donc là-dedans, je ne sais pas si vous avez déjà joué aussi vous à des MOBA, quand tu rentres dans le feu de l'action et que tu as 10 joueurs en même temps, avec en plus des petites unités gérées par l'unité, par le, les ordinateurs, plus des unités neutres, je comprends plus rien. C'est-à-dire que visuellement, je vois plus rien. Je comprends plus rien parce que les gens, ils ont 3 auras différentes avec des effets de particules. Donc, en fait, le mec, il a son, son résistance aux dommages magiques à plus 13%, et que l'autre, il envoie un spell qui éclabousse tout l'écran. J'oublie. Donc, je lance tous mes sorts d'un coup, en général. Je lance tout et n'importe quoi d'un coup. J'oublie que j'avais des objets que je pouvais utiliser à certains moments qui auraient pu me sauver. J'oublie que sur le terrain, en fait, je suis en hauteur par rapport à un gars, j'aurais pu avoir l'avantage. J'oublie toutes les synergies avec ma team. Parce que le MOBA, c'est, il faut exécuter vraiment de manière très, très violente. Il faut esquiver comme dans un jeu d'action. Et en même temps, il faut gérer ta team. Et mentalement, il y a énormément, énormément de critères. Donc, je me suis rendu compte que voilà, je suis un joueur qui a un taux de, mon taux de panique est assez bas, quoi. Il arrive assez vite. Donc, je vous demanderai après à quel niveau de votre taux de panique il est. Mais moi, vraiment, il est assez bas. C'est-à-dire qu'à Street Fighter, je commence à bourrer les boutons ou dans le jeu de baston assez vite. Dans le jeu d'action, je commence à bourrer les boutons assez vite. Et, dans les MOBA et les jeux comme ça, je vais paniquer un petit peu. Alors, évidemment, comme tout le monde, il y a un moment, t'as le fameux get good, hein. On va s'entraîner un peu. Alors, on va essayer de s'améliorer là-dessus. Donc, on a tous été dans les salles du temps des modes d'entraînement des jeux de baston à essayer de rentrer des combos de manière propre en appuyant une fois sur la touche gros point qui cancel le Hadoken au lieu d'appuyer sur 4 fois la touche gros point qui cancel le Hadoken. Alors, on a essayé tous d'être propres. J'ai essayé de jouer à Sekiro et de l'envisager comme un rhythm game. C'est-à-dire que vraiment, la plupart des jeux From Software et encore plus Sekiro et encore plus les jeux où tu peux faire des parades à la frame ou des contres. En fait, tu peux quasiment fermer les yeux à Sekiro et savoir que le boss va faire pam, 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 pam. Et en fait, tu peux quasiment appuyer en fermant les yeux pour rester concentré, en fait. Jouer à Sekiro de manière très propre et comprendre. Donc, j'ai essayé de m'entraîner, en fait. J'essaie d'être meilleur. Et ça marche. Évidemment, on est meilleur qu'avant et je joue mieux au jeu qu'avant et je me continue à essayer de garder le calme. Mais quoi qu'il arrive, on est des natures de joueurs et moi je suis une nature qui a une exécution assez faible, assez basse. Et donc il faudrait que je m'entraîne constamment sur un jeu pour vraiment être bon à ce jeu que j'y joue comme on devrait, en fait, comme on devrait un peu y jouer, enfin, en vrai. Alors du coup, je me suis aussi demandé, eh ben, pourquoi je m'inflige tout ça? Je me suis dit, mais si je suis pas très bon à ce genre de jeu, pourquoi j'adore jouer à des roguelikes en difficulté maximum, c'est-à-dire continuer à me prendre mon PC, monter la température doucement dans Hades, parce que dans Hades, littéralement, tu montes la température telle une grenouille dans une casserole, c'est la métaphore du jeu. Pourquoi j'essaie de finir Dead Cells en difficulté maximum, alors que Dead Cells en difficulté maximum, aujourd'hui, vraiment, les deux premiers ennemis peuvent te two-shot dans le jeu. Pourquoi j'aime tellement les MOBA? Pourquoi j'aime tellement jouer à des FPS tactiques où, pareil, en fait, tu dois connaître tes spells, savoir quel est le spell ennemi et savoir que ton pote, il dit, attends, dans 15 secondes, le mec, il va avoir son spell, mais comme il a pas économisé sur le round d'avant, il aura pas la bonne arme. Donc, en fait, on peut avancer et prendre la vue sur ce truc-là. Pourquoi je m'inflige des trucs comme ça, quoi? Et pourquoi pire, des fois, joueur Stone, en fait, du coup, je me mets un autre jeu, genre Among Us, en parallèle d'Hearthstone, et je fais alt-tab entre les deux pour mal jouer aux deux.
Ah bah bravo!
Incroyable. Là, Hearthstone, c'est mon jeu du alt-tab. C'est vraiment, je bosse, je fais un alt-tab Hearthstone ou je joue un autre jeu. Bon, bref. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'aime ça. J'aime ça le moment où même je vais paniquer ou je vais un peu mal jouer. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le moment où tu essaies de jouer propre. Et puis quand tu commences à jouer sale, tu rentres dans une sorte de grande inconnue, un RNG, un random, du suspense. Je sais pas comment t'appelles ça, mais c'est un moment où tu t'oublies. Tu deviens une sorte de furie ou un poulet sans tête, plus, pour être plus juste. Mais tu oublies un peu tout et tu fais une sorte de pas en avant à l'Indiana Jones en disant ça va peut-être passer. Tu le tentes. Tu ne sais plus vraiment ce que tu fais. C'est vraiment, t'agis à l'instinct, globalement. Tu brûles les boutons. Tu gères un effet sur trois sur ce que tu vas faire. Et c'est ça. Et quand Daz va me sauter dessus, quand on se bat à Street Fighter 4, je sais qu'il va me sauter dessus. Il sait que je vais parer son gros coup de pied sauté. Et il sait qu'après, il va me faire un dragon piffé.
Mais moi, j'y crois.
Voilà. En fait, dans les combats de samouraï, c'est que d'un coup, l'écran s'éteint. T'as un ching. Tu sais pas vraiment
qui a tué qui.
Tu sais pas entre le boss et toi, si t'as bourré plus sur le bouton pour essayer de cancel l'animation du boss pour qu'il ait l'animation stun ou si le boss, en fait, il t'a frappé. En fait, je sais plus trop. Je m'en remets, en fait, je m'en remets une forme de destin. Et et j'adore ça. Je sais pas pourquoi. Alors, je me suis dit, donc, d'accord, en fait, à un moment, j'adore jouer au jeu, et même le moment où, en fait, ça devrait devenir frustrant pour moi parce que j'y arrive plus à tenir le rythme et à tenir l'exigence qu'il me demande, bah, j'aime bien un moment dire fuck, et tel un Leroy Jenkins, enfin, faire une sorte de YOLO et foncer dans le tas. Je me suis aussi, du coup, demandé si ma limite, en fait, de skill, ma limitation, c'était devenu un plaisir aussi par nécessité. C'est peut-être qu'une partie de moi, comme souvent, on va transformer une contrainte en plaisir, ou une contrainte, on va la glorifier. Est-ce que je me suis pas fait toute cette chronique pour dire, bah, en fait, t'es une merde, et puis juste pour pouvoir assumer, tu vas faire un truc un peu, tu vas essayer d'y réfléchir beaucoup, beaucoup, pour mieux faire passer la pilule que t'es pas un très, très bon joueur. Ça, je sais pas, honnêtement, je me pose encore la question, mais ce que je sais, et c'est pour ça que j'aime le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, je pense qu'il est aussi étudié et qu'il est designé pour te laisser dans ce genre de moment et laisser tous les joueurs un moment craquer. Et ça passe quand même. Voilà.
Très bien, merci l'âme, la panique de l'exécution. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu des moments terribles comme cela, Chloé? Toi, est-ce que tu paniques à l'idée d'avoir une exécution trop compliquée dans les jeux?
Alors, juste d'abord, l'âme, de ce que j'entends, de ce que tu dis, en fait, j'ai l'impression que ton problème, c'est tous les jeux en action en temps réel.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Mais j'ai exactement le même souci, hein, donc je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'adore le tour par tour. Tous ces jeux dont l'action s'arrête au moment où il faut prendre des décisions. Ça c'est bien parce que ça permet à mon cerveau d'avoir le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire. Non, c'est vrai que, enfin, moi aussi j'ai un seuil de tolérance extrêmement bas. De toute façon, il suffit de me voir jouer à un jeu d'action pour voir qu'il y a un problème. Et que je fais littéralement n'importe quoi. Mais heureusement, les jeux aujourd'hui sont tellement permissifs que ça passe, hein. Généralement, ça passe sans souci. Mais là, toi, par exemple, pour l'expérience et aussi pour m'entraîner dans l'optique d'un live que je vais faire demain, j'ai joué un petit peu à Demon's Souls, histoire de pas me ridiculiser totalement, tu vois, genre, histoire de pouvoir faire genre les 10 premières minutes du jeu sans trop me... Ouais. Donc, j'ai été coachée, hein, pour m'aider. Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai senti, même si je sais très bien que c'est un jeu où il faut genre tu mets un coup, tu fais une roulade, tu mets un coup, tu fais une esquive. Donc ça va, mais en fait jusqu'au moment où moi le moment où je perds les pédales, c'est quand il reste quasiment plus de vie à l'ennemi.
Mais oui.
Et là je me dis non mais c'est bon là, on y va.
Let's go.
Là c'est let's go quoi, on bourrine et non, c'est pas ce qu'il, enfin sur ce type de jeu, c'est pas ce qu'il faut faire. Et mais c'est pareil sur en fait quasiment tous les jeux où tu as une barre de vie pour l'ennemi et que tu arrives genre sur la toute fin, mais là c'est genre mon cerveau il dit hop, on s'en fout, c'est parti. on bourrine, on appuie sur tout, on balance tout, et de toute façon c'est bon là, c'est terminé. On est à la toute fin, donc voilà, c'est le moment où je vrille, et du coup je sais que sur ce type de jeu c'est le moment très dangereux parce que c'est où tu vas mourir bêtement.
Exactement.
Juste parce que tu te dis bah non c'est bon, j'ai plus besoin d'esquiver, j'ai plus besoin de me mettre en défense. D'ailleurs, pour te dire à quel point mon taux est extrêmement bas, moi je jouais aux jeux de baston quand j'étais ado. Mais bon, j'y jouais de manière ultra random. Bah, moi, je prenais la manette, j'appuyais n'importe où, et puis voilà, je m'amusais comme ça. Mais quand je jouais, donc je jouais contre la console, et quand je jouais contre des humains, je me souviens de dire clairement, par exemple, à ma sœur, non mais utilise pas la garde, c'est tricher. Parce que pour moi, voilà, c'est genre, on est là pour se battre, quoi. Enfin, on va pas parer, on va pas faire la garde.
Ah, bravo.
En fait, mais je disais ça, c'est juste parce que moi, je ne savais pas utiliser la garde. Donc, c'est pour moi, c'était genre, non, mais c'est trop compliqué. Faut savoir si ça vient du haut, du bas, du milieu. Fou. Moi, je suis pas là pour souffrir, hein, sur un jeu vidéo. Hein. Je suis pas là pour réfléchir. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu instinctif. Et donc, oui, c'est vrai que, bah, maintenant, je suis quand même beaucoup mieux servie sur les jeux d'aujourd'hui où c'est quand même, bah, comme je disais, c'est très permissif et tu peux faire un peu n'importe quoi et bon, ça, tu bourrines et ça passe, quoi. Et j'avoue que maintenant, plus le temps passe, moins j'ai de scrupules à passer en facile sur tout ce qui est phase d'action.
Ouais. Voilà. Moi, c'est marrant parce que je suis comme toi sur les réflexes et effectivement, la panique quand je sens que la victoire arrive, ou alors là, je deviens une bête sauvage. Mais pourtant, j'adore tous ces jeux qui te punissent pour être des joueurs comme nous, quoi.
C'est
des jeux qui te punissent pour être un joueur comme ça. T'as pas le droit normalement.
C'est très marrant, tu vois, comme quoi on peut connaître les gens depuis longtemps et ne pas les connaître. Moi, j'ai toujours pensé, justement, puisque je savais que t'étais féru de MOBA et de tous ces trucs à la con, là, je me suis toujours dit, l'âme, c'est un joueur méthodique, tu vois. Vraiment,
je suis méthodique à un certain seuil.
Bah ouais, mais là, apparemment, ton seuil, il est très bas. Donc...
Après, non, mais non,
moi, parce que je passe mes avis à...
Ouais, tu le donnes très bas, mais il est assez haut. En fait, l'âme, je pense que tu as une exécution qui est déjà bien au-dessus de la moyenne des joueurs d'aujourd'hui.
Ouais,
mais
c'est peut-être parce que des joueurs de haut level comme Shishayu ou des MV qui, tu vois, qui...
Mais voilà, parce que toi, tu te projettes vers des gens comme ça qui ont subi...
Ah, c'est parce qu'ils se comparent au MVP, en fait, c'est ça.
Bah voilà, c'est ça, qui ont subi des vrais entraînements pour jouer mieux à certains types de jeux. Et qui du coup ont suivi les cours de rigueur qui doivent suivre en conséquence, tu vois ce que je veux dire, sachant que toi à aucun moment ni t'es mis à speedrunner le moindre jeu, ni ouais. tu as joué de façon rigoureuse compétitivement au moindre ouais. au moindre jeu, tu vois, tu es toujours resté même si
tu si tu te compares à des champions olympiques, tu seras toujours perdant.
Mais exactement, enfin c'est exactement, enfin ce que faut te rendre compte là, que ce que tu demandes en termes de rigueur d'exécution, c'est des choses qui mettent des années à obtenir. Encore plus quand on traîne des habitudes de jeu depuis combien t'as toi 20, 22 ans.
Ça ouais.
fait beaucoup, tu vois. c'est vraiment, c'est dur. Il faut ça, c'est comme, mais l'analogie avec l'instrument est très juste. Ça demande à vraiment un apprentissage. Alors oui, t'es peut-être dégoûté que ta sœur elle soit plus douée en piano que toi immédiatement. Bon, ça c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux, mais je t'assure que tu peux être aussi bon qu'elle au piano. Hein. Ça te demandera juste plus de temps.
Oui, ça demandera plus de temps. Mais effectivement, à force de regarder des joueurs d'e-sport ou des spécialistes du speedrun, on a toujours l'impression que ce sont des gens qui sont tellement calmes, enfin doués déjà d'un oui. point de vue. Qui les réflexes est tellement calme dans les moments où le jeu en fait te pousse à la panique et eux ils paniquent jamais mais même enfin je reviens à Street Fighter parce que du coup ça parlera beaucoup à Daz et notamment à Ken parce que voilà mais à Street Fighter les nombres de soirées où on se rendait compte qu'il y avait des gens qui vraiment prenaient du level. Il y en avait d'autres comme Daz et moi, je pense.
Bah, moi, je stagnais à l'infini. Ouais. Mais moi, je mettais un point d'honneur à ne rien apprendre.
Ben voilà, tu vois. L'idée est là.
Voilà, moi, même quand t'avais justement un Marc ou un KO qui prenait le temps de t'expliquer que, mec, ça fait trois fois que tu me fais ce combo, ça passera pas, tu vois. Et moi, je me dis, ouais, mais en fait, je le triple mind, tu vois. Parce que lui, il sait que ça fait trois fois que ça passe pas, donc il va se dire, il est pas suffisamment con pour le faire une quatrième fois, donc moi, je vais le faire, et, tu vois. Et je me dis, on sait jamais, ça peut peut-être passer sur un malentendu, mais moi, je suis Michel Blanc, en fait. Et je n'apprends jamais de mes erreurs. C'est-à-dire que moi, le combo que tu bloques 10 fois, je te le refais une 11e, j'ai zéro problème avec ça, en fait. Parce que j'ai pas cette. Mais oui, moi, j'ai pas cette notion de vraiment, tu sais, de leveler. C'est pour ça d'ailleurs que je fuis, mais directement tous les MOBA, les machins comme ça, où effectivement, et là tu le dis très bien, très clairement toi aussi, à un moment donné, moi je regarde l'écran, je ne comprends même pas, j'ai l'impression d'être mon daron, tu vois.
Ouais.
J'ai l'impression d'être mon daron devant un truc moderne, et je comprends même pas ce qu'il faut regarder, tu vois. C'est là où tu te dis, putain, c'est pas pour moi en fait, ça n'est clairement pas pour moi. Bon, tous ces jeux, et c'est pour ça que les roguelikes, j'aime pas non plus, tous ces jeux où il y a une exec, où il y a un timing, où il faut jouer académiquement pour réussir à passer, ben en fait, je les évite. Donc moi, je me faufile entre les sorties, donc je vois de quoi vous parlez. Par exemple, vous parlez de Hades, j'ai mis un point d'honneur à ne même pas regarder une seule vidéo de ce jeu. Dead Cells, j'y ai jamais touché, j'ai même pas vu, je sais même pas à quoi ressemble l'écran d'accueil, tu vois. Tous ces jeux-là, je les évite et ma vie est plus douce.
Voilà.
C'est ma technique.
Après, tu sais, ça demanderait, à mon avis, pas plus d'une heure pour comprendre...
Mais moi, tous les jeux où... tu sais, parce que ça fait partie des boucles de gameplay. Je me dis, si au bout d'une heure, j'ai compris, ça veut dire qu'il va me baiser la gueule dans 3 heures et ça va m'énerver, en fait, tu vois. Tous les jeux avec des arbres de compétences où tu sais qu'à un moment donné, il va falloir crafter des trucs relous avec des éléments que tu trouves nulle part. Je me dis, putain, il va y avoir un vieux plafond artificiel qui va m'empêcher de progresser.
Là, c'est ça, parce que les roguelikes, justement... Il n'y a jamais de phase où tu dois grinder ou crafter. C'est vraiment des trucs où les runs durent 30 minutes. Tu vois, Hades, moi je le finis 30 minutes, un run quand je finis le jeu, tu vois. Donc ça va vite en fait. Ce sont des concentrés, enfin là on s'éloigne de la chronique, mais ce sont des concentrés de jeux d'action-aventure où effectivement, au lieu de te dire, ah, il faudrait que j'ai 300 pièces d'or pour pouvoir acheter ce truc-là, en fait, tes 100 pièces d'or, tu les ramasses par terre et tu récupères un truc au hasard. Donc c'est très simplifié. Mais bon. Et effectivement, il t'oblige de plus en plus à jouer de manière
académique, propre.
Alors, au début, tu peux jouer un peu n'importe comment, et puis à un moment, t'es obligé de jouer de manière très clean et de faire des esquives à la frame près pour avoir des effets décuplés. Enfin, t'imagines, quoi.
Alors, il y a quand même quelqu'un qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent, c'est le maître de l'exécution. C'est bien entendu Fibre-Tigre. Fibre-Tigre, tu dois rigoler quand tu entends ce genre de propos.
Non, moi, j'ai, par exemple, au Versus Fighting, j'ai absolument pas le niveau. Même à Tetris, je suis pas très bon. Par contre, ouais, j'ai fait les Dark Souls. Et je me rappelle qu'un jour j'ai loué une voiture et j'avais peur d'avoir des accidents ou que le mec m'embrouille tout ça et je me suis dit la vie c'est quand même beaucoup plus dur que Dark Souls parce que Dark Souls en fait comme le dit Exerve qui est vraiment le plus grand joueur français de Dark Souls, en tout cas c'est un peu Monsieur Dark Souls, il dit en fait il suffit juste de la discipline et tu arrives à faire Dark Souls. Et en fait il y a quelque chose aussi dont t'as pas parlé l'âme, c'est que le jeu par son feedback, c'est-à-dire le screen shaking, la musique parfois. En fait, il met dans un état de stress. Et une façon vraiment simple de rendre le Dark Souls mais hyper facile, tu coupes
c'est
la musique.
Sans le son.
Ouais, tu coupes la musique et tu mets les Bee Gees, tu vois. Oddie Pizzy Your Love sur un boss. Mais franchement, t'es détendu.
C'est
le boss est ultra lent.
C'est ce que je fais.
Ouais, c'est marrant, c'est ce que je fais aussi, ouais.
Ouais, le boss est ultra lent. Tu le vois, vraiment, tu te dis, mais pourquoi je suis si rapide d'un coup? Et en fait, c'est parce que t'as plus du tout cette ambiance de stress qui fait que le jeu soit dur.
J'ai passé des boss de Metroid Prime comme ça, en remplaçant la musique et en mettant le petit bonhomme en mousse.
Je joue à un petit bonhomme. Je joue à Death sans les musiques parce que les musiques, c'est un peu genre Death Metal, qui sont très très bien. Mais en fait, effectivement, quand j'enlève les musiques d'Hadès, j'enlève une grosse partie du stress, mais qui fait partie du plaisir et de l'identité du jeu, parce que encore une fois, le jeu il est fait pour te pressuriser, quoi. Mais effectivement, sans la musique, c'est...
Ouais,
la
musique de boss de Dark Souls, c'est vraiment, tu vois, t'as un million de cœurs, t'as des trompettes et tout. Ouais, écoutez, c'est stressant. Mais sinon, moi, j'ai mon jeu, comment dire, j'ai un jeu aussi très dur que je rêve de finir un jour. Et je vais te dire pourquoi j'ai du plaisir, moi, à me confronter à ce jeu. Parce que pour moi, c'est vraiment l'ascension de l'Everest. Et quand je l'aurai terminé, c'est un peu comme si j'avais... Enfin, il y a beaucoup de points de comparaison. C'est-à-dire que j'ai tenté, je me suis planté. J'ai vraiment étudié le jeu. C'est-à-dire, je l'ai étudié sur du papier. C'est-à-dire avec des gens qui écrivent des thèses dessus, qui donnent des stratégies, mais c'est jamais facile. Il y a vraiment très peu de gens qui ont réussi. Et les gens qui ont réussi, ils ont juste dit, je l'ai réussi. Ils n'ont pas de preuves matérielles de montrer, simplement de dire qu'ils l'ont réussi. Et ce jeu, je vous en avais parlé dans une émission où tu m'avais invité, Ken, c'est NetHack, qui est un jeu très abstrait. Qui est très très ça c'est le prince des roguelikes qui est très difficile à regarder, enfin même visuellement il est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations. Effectivement moi je rêve, enfin même déjà j'aimerais bien rencontrer un jour quelqu'un qui l'a terminé parce que ces gens existent, parce qu'ils font des lives, tu vois, mais même enfin tu vois il faut descendre 50 niveaux, en remonter 50 et ensuite en faire 4. Et j'aimerais ne serait-ce qu'arriver au niveau 20, tu vois, descendre au niveau 20, mais je dépasse jamais le 10, le 12, et même quand je suis préparé psychologiquement. Et c'est marrant parce que c'est un jeu en tour par tour. C'est-à-dire que, comme le disait Chloé, t'as tout le temps entre deux tours, et malgré ça, tu perds patience, tu pètes les plombs, tu fais le truc qui va pas, tu vois. Et c'est vraiment fascinant la difficulté de ce jeu. Et si un de nos auditeurs a réussi à finir le jeu ou est arrivé loin, moi ça m'intéresse parce que voilà, votre expérience m'intéresse.
Mais moi c'est marrant ce rapport. En fait, le rapport à la performance. Parce que, tu vois, donc vous le savez, je suis un bourrin généralement.
Non.
J'évite effectivement les MOBA, les roguelike, etc. Par contre, j'ai un amour pour les manic shooters qui demandent en fait une précision aussi, un timing de ouf.
Et moi, ça fait péter un câble.
Ultra-contradictoire, tout ça.
Bah oui, en fait, moi, je peux jouer, je peux passer mes 3 heures d'affilée à jouer au premier niveau de Ketsui. En fait, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Et pareil pour Dodonpachi, mon jeu du cœur, notamment le Daiyuju, où en fait, ce jeu-là, depuis que j'y joue, je suis jamais allé plus loin que le niveau 3. Et ça me va très bien.
Ah bon?
Et en fait, je le retente et à aucun moment je me dis attends, je vais regarder un let's play du meilleur joueur de Dodonpachi Daiyuju pour voir les patterns, les machins, les trucs. Non, en fait, à aucun moment. Moi, tout ce que je fais, c'est zéro continu. Donc, je joue avec un seul crédit et je vois où le crédit m'emmène.
Ouais.
Et jusqu'à la fin de ma vie, en fait, je pense que je passerai pas le niveau 3 et je le vis très très bien. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de passer à côté d'un truc parce que l'expérience, elle est dans le voyage, tu vois.
Quand je passe
un niveau en perfect, le niveau 1 que je, au bout d'un moment, le niveau 1, tu le connais par cœur, tu vois. Le niveau 1, en général, je le passe sans perte de vie, etc. Je suis content. J'arrive au niveau 2, je me fais massacrer, alors que le niveau 2, je le connais très bien aussi, tu vois. Mais, j'ai pas le côté, il faut absolument que je nique le jeu, tu vois. En fait, je me dis, un jour, j'aurai l'illumination, tu vois, tu sais, comme des fois, t'arrives pas à passer un truc, t'arrêtes le soir, tu reviens le lendemain, et en fait, tu le passes en one shot, et tu fais, ah bon, bah, je comprends pas pourquoi je bloquais. En fait, ça me dérange pas, tu vois, de me dire que bah, le jeu, il est infinissable. Ça me... c'est ouais. quelque chose, je suis vachement en paix, en fait, avec ça, ouais, je suis serein, moi.
Je pense que les shoot'em up ont moins ce problème-là, parce que déplacer un petit vaisseau sur un écran, c'est un peu comme de déplacer un curseur de souris, finalement, avec ta manette. Et du coup, t'as moins tendance à faire ce que tu fais dans un jeu de combat, c'est-à-dire tourner la manette dans tous les sens ou bouger le signe dans tous les sens. Ton perso qui bouge partout, mais tu vois pas trop ce que ça veut dire.
Ah, si, dans...
Alors, dans un shoot'em up, bah si, tu vois ce que ça veut dire de bouger ta manette partout, ça n'a aucune efficacité immédiate.
Oui, mais en fait, t'as des ennemis avec des patterns en fonction de à quel moment t'arrives sur cette vague-là précisément, et le pattern
bien
change,
sûr,
etc. Et t'as qu'une façon de le passer, tu vois. Mais
jamais n'importe quoi dans un shoot'em up comme tu ferais n'importe quoi dans un jeu de baston que tu connais pas.
Bah si, bah, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, par exemple, le premier niveau de Dodonpachi Daioju, donc je le connais par cœur, je connais tous les patterns, etc., machin. Donc j'essaie de faire une exec à peu près propre, tu vois, de pas utiliser de bombe, machin, un truc. Et en fait, ben, là, moi, les moments dans le niveau que je considère, moi, comme étant difficile, si je le donne à un de mes potes ou un de mes cousins, en fait, il va même pas s'en rendre compte, lui. Tu vois, parce qu'il va traverser le niveau au pas de course, en se disant, ah putain, ouais, là, ok, machin, un truc. Et en fait, ce que toi, tu lis comme étant difficile dans ton niveau, ben, finalement, d'autres personnes vont dire, ouais, enfin, c'est un jour normal, tu vois. Mmh. Et des fois, en fait, il y a des gens, Quand je jouais par exemple à Giga Wing ou à des shoots comme ça où il y a des phases maniques à un moment donné, j'avais des potes qui étaient complètement béotiens, qui se promenaient, tu vois, qui se promènent dans le niveau, alors que moi je suis, putain, en silence, tu vois, à côté, je suis, comment il fait ce bâtard, putain, comment c'est possible, ça se trouve, il est mutant, ou alors je suis complètement nul, tu vois, je sais pas. Et je pense que c'est quand tu surintellectualises le truc, en fait, et t'oublies que la fonction primaire d'un jeu vidéo, c'est quand même de s'amuser. Quand tu rentres trop dans la méta, dans, tu vois, le calcul des frames, dans les jeux de baston, machin, etc., je pense que tu perds, la spontanéité, la naïveté du truc, et l'approche complètement à la cool, qui fait que, ben, en fait, ouais, un mec qui a jamais joué à Street Fighter 4, il peut mettre une branlée à quelqu'un parce que justement, il est tellement pas dans la méta que l'autre en face, il sait pas comment faire parce que le mec joue pas de la manière dont on s'attend à ce qu'il joue. Tu vois, quand tu joues à un certain niveau, t'es à Roland Garros, Michael Chang qui sert à la cuillère contre Stéphane Edberg, les gens, ils ont pas compris, tu vois. Parce qu'en fait, tout le monde s'attend à ce que tu fasses un truc académique qui respecte l'air. Et quand t'arrives à un niveau de jeu, tu vois, le Street Club, effectivement, t'as quelqu'un qui est pas habitué à jouer à Street Fighter, tu lui mets dans les mains, les trois quarts du temps ils vont se faire plier, on est d'accord. Mais il peut y avoir des moments où en fait il se passe un truc et le joueur qui a aguerri, il comprend pas en fait, il se fait niquer mais il comprend pas pourquoi.
Ce moment de panique que j'ai, c'est ce que j'espère quand je suis en affrontant de MOBA ou contre un boss dans Hades, en me disant allez ça passe, mais je pourrais pas te dire pourquoi ça a passé, c'est juste que tu pries que ça passe. Et personne, je trouve ça assez drôle en fait, ces moments de... ces moments un peu fous où tu t'oublies tout et tu pries, quoi. Ça, c'est
rigolo. Qui ici appuie plus de 5 fois sur le bouton lorsque un combo dans un jeu d'action est 5 fois le bouton carré?
Bah, moi.
Ouais.
Tout le monde?
100%.
Ouais.
Il y a des fois, j'essaie de compter 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, ma main continue à trembler sur le bouton, quoi.
Alors, tu vois, le combo de base de Spider-Man, c'est carré, 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 carré. Combien de fois vous appuyez sur carré?
Ah non, moi je vais le bourriner, c'est sûr.
Voilà, bourriner.
En fait,
bien.
Moi je le bourrine jusqu'à ce que ça aille au bout de l'animation. Ouais. Effectivement, c'est faire 2-3 coups dans le vide, alors que le mec il est déjà dans le vide.
Tu bourrines. Très bien.
Ouais, complètement.
Et... Chloé, tu bourrines aussi?
Ah bah, je bourrine aussi. Oui, oui, oui.
Non, et en fait, plus que Spider-Man, je pense surtout à Batman.
Ouais, Batman, pareil.
Batman,
ouais.
ça m'a appris justement la discipline parce que, en fait, ça marche au début, mais quand t'as des combats un peu tricky, tu dois vraiment être très attentif à ce qui se passe à l'écran, donc, c'est pas, je suis pas trop en panique, quand je suis en panique dans Dark Souls, par exemple, je coupe la musique, ce que l'âme a dit, il l'a dit à la fin de sa chronique, c'est que simplement, c'est des crises de panique, c'est tout. On est sur le grand 8 du jeu vidéo, ouais. Quoi.
Je panique pas quand j'appuie 18 fois sur le bouton carré pour faire 5 coups à Spider-Man. Hein. Je suis 100% dans le calme. C'est juste que je recherche l'annulation de la précédente animation par la nouvelle le plus rapidement possible. Donc je bourre le bouton, comme ça je suis persuadé qu'il y a une de mes inputs qui donnera l'animation suivante le plus rapidement possible. Mmh. C'est pour ça que je bourre le bouton. Et ça peut être des bonnes raisons. de bourrer les boutons.
Parce que le jeu, il est fait pour. En fait, Spider-Man, c'est un jeu qui rend le bourrinage intéressant et qui te punit pas si à un moment tu te donnes trois coups dans le vide. Alors que tu joues à Monster Hunter, bon, tu bourrines le bouton, je peux dire que t'es parti pour 30 secondes d'animation de ta grenade, tu te fais faire 25 roulades et t'es emporté par ton épée à 100 mètres derrière et tu peux rien y faire. Et à Hades, je prends plaisir parce qu'il y a, donc je vous spoil pas, mais il y a certaines armes. En fait, il y a plusieurs armes. Chaque arme a différentes formes. Et chaque forme, en fait, réagit différemment à la manière dont tu vas l'améliorer. Donc, c'est hyper riche. Mais il y en a une, en fait, qui est vraiment la canne de survivant, c'est que c'est une forme d'arme où tu frappes un ennemi qui devient très fort, sauf que quelques secondes après, il se prend masse dommages. Donc, en fait, le jeu te pousse à frapper l'ennemi et à te retourner, à passer à l'ennemi suivant, alors que l'ennemi, il est encore vivant quelques secondes, en fait. Parce qu'à un moment, il va se prendre un one-shot à distance. Alors que t'as le dos tourné, c'est très stylisé. Et j'adore jouer cette arme dans Hades parce qu'elle m'empêche. Enfin, cette manière de jouer cette arme, elle m'empêche de bourriner, en fait. Parce que du coup, c'est stylé d'arriver de dire méthodiquement, j'arrive, je fais paf, un coup un gars, paf, un coup un gars, paf, un coup un gars, je dash en arrière et dans mon dos, tel cool guys dont look avec explosion, j'ai trois mecs qui explosent derrière moi, quoi. C'est très satisfaisant.
C'est très intéressant. Le fait la notion de satisfaction est très bonne. Une des choses pour lesquelles on dit souvent que les jeux de combat sont mal designés, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'effet sur les inputs que tu fais. Et du coup, les gens ont tendance à faire n'importe quoi parce que tu n'arrives pas réellement à faire le lien entre les inputs que tu rentres et l'action qui se passe sur l'écran. Une chose qui pourrait pallier directement à ça, c'est de penser le sound design du jeu pour qu'à chaque fois que tu fasses une input, un son logique apparaissent. Il y a des jeux qui font ça, certains jeux qui utilisent les inputs que tu fais et qui rajoutent des sons, et ça fait des harmonies si tu joues bien, et ça fait vraiment des sons de merde si tu joues pas bien. Si on faisait ça dans les jeux de combat, on se rendrait très vite compte que bah si tu fais n'importe quoi, tu produis vraiment du son merde qui est désagréable et t'arrêterais de jouer et tu pourrais jouer de façon plus cool. Ça serait.
Il n'y avait pas eu un thread sur Twitter là, une vidéo qui était sortie d'un gars qui avait transformé ça en rhythm game, genre
Guilty Gear
exactement, ou.
C'est pour mettre le lien entre les rhythm games. Ça c'était pour une des autres chroniques de Quête Latérale, tu sais, sur les catégories de jeux que Fibre nous avait fait, comme quoi les jeux de rythme étaient dans la même catégorie que les jeux de combat, qu'on pouvait les ranger comme ça plutôt que de faire des catégories par genre.
Moi c'est un jeu de combat qui suivait un rythme où en fait il fait sens d'un point de vue rythme.
C'est
pas pas un, tu vois, imagine tu fais ça avec tes doigts sur une manette, mais laisse tomber, serait tellement plus agréable et simple de faire des combos.
Oui.
C'est génial.
C'est exactement ça. C'est juste que je trouve que les sound design sont peut-être pas assez travaillés parce que ce serait un peu ridicule d'avoir ça tout le temps, mais en mode entraînement ou pour justement apprendre à être dans le rythme, ça serait beaucoup plus intéressant parce que si vous écoutez même une manette ou le stick d'un joueur qui sait bien jouer, ben vous reconnaissez une certaine forme d'harmonie dans sa façon de jouer parce que il y a un ordre, il y a un respect d'un certain rythme, il n'y a pas de chaos. Ça s'entend mal quand on joue nous-mêmes. Par contre, si le jeu te le rappelle avec des sons particuliers, à ce moment-là, on prend vite conscience, eh bien, que l'on fait n'importe quoi.
Putain, le solfège du jeu de baston, quoi. C'est beau.
Le seul moment où j'ai passé les combos les plus durs dans les modes d'entraînement Street Fighter, c'est quand j'ai fermé les yeux. C'est que je connaissais par cœur la séquence. J'arrivais pas à l'écouter parce que le moment où ça devient dur, je bourrine. Et en fait, quand tu le fais lentement et de plus en plus vite et qu'à un moment, tu sais que t'as le bon rythme section par section, et que je le fais sans regarder le jeu, tout comme Fibre enlève la musique, ben moi, en fait, ça fait impressionnant, ça fait genre...
J'enlève l'image.
Bandé, il passe des combos, et en fait, moi, mentalement, enfin, d'un point de vue ski, c'est plus simple pour moi de fermer les yeux sur des combos Street Fighter d'entraînement, quoi. Parce que je m'enlève une distraction.
Voilà, du coup, ne paniquez pas, bien entendu, lorsque vous entendez l'âme eh bien pleurer sur son exécution et qui vous met quand même 1000-0 à tous les jeux, hein, bien entendu, pas le même...
moi, je suis rassuré, il comprend rien à ce qui se passe dans Dota, ça me rassure, voilà.
Personne.
Ça va, je suppose que les champions du monde eux-mêmes ne comprennent rien.
Par contre, Daz, tu devrais essayer Hades. Déjà, vous devrez tous essayer Hades, mais Daz, c'est...
Mais il sort quand dans le Game Pass, le jeu?
Je sais pas.
Bon, bah voilà. Mais
il est pas cher, de toute façon, non? Il a 20 balles.
Ouais, mais bon.
Il a 20 balles et moi, j'ai payé 6 balles sur l'Epic Game Store. 6 balles, c'était complètement débile. Ah, non, mais vraiment, il est génial parce qu'il y a ce côté... vraiment c'est light sur la partie build et arbre de talent, c'est vraiment très simple et de toute façon c'est du hasard, donc t'es pas en train de te culpabiliser en disant j'ai fait le mauvais truc, c'est que de toute façon Ils te les donnent quasiment au hasard à chaque salle. C'est très, très cool.
Vas-y, vas-y. C'est quoi, je prends cet engagement. Je vais essayer Hades.
On va reparler d'Hades. Mais oui, il y a peut-être une chronique à faire, mais essaye de faire l'effort d'Az. Hein. Ça peut être aussi une forme de rédemption. Hein. En ce moment, je suis en train de faire l'effort de jouer à énormément de jeux dont j'ai des a priori de merde dessus. Alors souvent, je l'ai fait et à la fin, je trouve
ça renforce.
Bien entendu, ça renforce. Mais au moins, je l'ai fait. Je joue à plein de trucs différents. Merci aussi le Game Pass, mais merci d'autres choses. Et je peux vraiment me dire, ah ouais, ça c'est vraiment pourri. Ou alors, ouais, bah j'étais vraiment un gros connard de penser ça. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Et mon
ça arrive vraiment ça.
Ah ouais, bah GTA 5 par exemple, GTA 5.
Ah ouais, non, mais là t'étais vraiment un Mongolien.
de ces jeux de ces morts et j'ai adoré. Tu vois, il y a plein de jeux comme ça. J'avais beaucoup d'a priori et je trouve ça cool à la fin. Voilà. Donc les MOBA font partie aussi de ma rédemption. J'ai plein de. Ah,
un jour, faudrait qu'on joue à des MOBA, mais à la cool, parce que ce qui est affreux dans les MOBA, c'est surtout la toxicité. Quand tu joues à des MOBA avec des gens qui veulent jouer à la cool, c'est très drôle un MOBA. Hein. C'est simple à manier. Hein.
Ouais, il y a même des potes qui se gueulent dessus. Là, mais pourquoi t'as fait ça, putain, t'as dit.
J'ai déjà testé, mais ça m'ennuie. Tu vois, tous les jeux du moment, je les ai testés. J'ai testé Among Us, j'ai testé Fall Guys. Voilà, je sais ce qui m'ennuie, ce qui m'ennuie pas. Tu vois, j'essaye de tout tester vraiment et pas juste dire bon, ça a l'air pourri votre jeu parce que vous vous amusez dessus. C'est dépasser ça peut être sympa, je trouve. Ouais. On va marquer la deuxième pause et c'est Chloé qui va nous parler d'une recommandation sur un livre qui parle un tout petit peu de presse écrite.
Oui, bah, je vais vous faire une recommandation culturelle, une recommandation lettrée, une recommandation d'un livre avec du papier, un livre qui se tourne avec des pages qui sont au nombre de 370. Alors c'est un livre qui s'appelle Press Start, donc presse comme presse écrite, et qui est sous-titré 40 ans de magazine de jeux vidéo en France. Donc c'est sorti courant septembre-octobre, si je me trompe pas, chez Omake Books. Et ça a été écrit par, alors j'espère ne pas écorcher leur nom, Yves Brim et Boris Krivicki. Alors, la couverture est volontairement criarde pour refléter le goût très particulier des couvertures de magazines de jeux vidéo de l'époque. Donc, ce qui peut un petit peu effrayer à première vue, mais le contenu est super, super costaud et extrêmement intéressant. Moi, j'ai dévoré le livre en un week-end. Et de quoi ça parle en gros, c'est l'histoire des magazines de jeux vidéo en France, de Tilt jusqu'à aujourd'hui. Donc ça se concentre uniquement sur la presse écrite, ça ne parle pas des sites internet. Ils sont évoqués évidemment sur la fin avec la menace qu'ils ont représentée pour la presse écrite, mais voilà, on se concentre vraiment sur les magazines papier. Et j'ai beau avoir lu, moi j'ai commencé à lire des magazines papier à la sortie de la première PlayStation, donc c'était à partir de 97.
My Sweet Summer Child.
Ah, oui. Et donc voilà, j'en avais lu pas mal parce que bon, j'étais abonnée à certains titres, d'autres je les lisais carrément chez le marchand de journaux, sans les payer. Quelle belle époque. Et mais j'ai appris quand même énormément de choses, notamment sur Tilt que je n'avais pas lu parce que
vieux. Ouais.
Bah ouais, ça a commencé en 82, je crois, donc j'étais pas encore née. Et quand ça s'est arrêté, je devais encore être, enfin, j'étais encore toute petite, donc j'ai pas connu Tilt. Et moi, j'avais l'image de Tilt, genre, c'est le premier magazine de jeux vidéo en France, donc c'est le magazine de jeux vidéo qui a inventé le triptyque news, preview, test. Et en fait, pas du tout. En fait, Tilt, donc c'est extrêmement bien expliqué. C'est un magazine qui était fait par des journalistes qui n'étaient pas spécialement des gamers. Et qui testait les jeux, mais un peu pour dire grosso modo ça fonctionne, c'est intéressant, et qui avait quand même de ce qu'ils expliquent une préférence pour tous les jeux, on va dire un petit peu intellectuels. Mais à côté de ça, c'était un magazine qui faisait beaucoup d'interviews, d'enquêtes, de papiers fouillés, Enfin bref, c'était vraiment un magazine de journalistes. Et c'était, enfin moi, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout concernant Tilt. Et du coup, j'ai un petit peu plongé
c'est marrant,
dans.
J'ai pas du tout souvenir non plus. Tu vois là.
Et ben toi, j'ai plongé un peu dans Abandonware. Et bah t'as des articles qui sont sur 7 ou 8 pages avec ils ont interrogé plein de monde, ils ont interrogé des développeurs, ils ont interrogé les premiers dirigeants de telle boîte de jeux vidéo. Enfin voilà, en fait t'as un aspect que tu retrouves aujourd'hui plutôt dans un JV ou dans un canard PC. Donc on a fait une sorte de boucle dans les magazines de jeux vidéo, mais en fait Tilt, bah ça a duré un temps, ça a duré quelques années, et en fait ça a été tué par un nouveau type de magazine qu'on connaît très très bien, dont le premier a été Gen 4 et qui en gros invente le triptyque news, preview, test, mais avec une formule, j'ai envie de dire un petit peu magique, qui est de plutôt que d'employer des journalistes, on va plutôt prendre des passionnés qui ne savent pas forcément bien écrire, mais qui ont la passion chevillée au corps. Et en fait, il y a un truc que j'aurais bien voulu qu'ils développent, c'est qu'ils expliquent que pas mal de ces magazines de cette époque-là, ils voulaient tellement des passionnés qu'ils allaient prendre des lycéens, voire des collégiens, pour écrire dans les magazines, évidemment lycéens et collégiens qui ne pouvaient pas être rémunérés étant donné qu'ils n'avaient pas l'âge légal pour travailler.
La passion.
La passion. Donc qu'on rémunérait à coup de jeux vidéo. Donc eux, ils étaient très contents parce que genre, hey, youpi, j'ai des jeux NES gratos. Mais voilà, en fait, ces magazines se sont fondés sur une certaine exploitation du travail de mineurs.
Mais évidemment.
Donc voilà, ça, j'aurais bien voulu en savoir un petit peu plus ce que c'est esquissé. Il y a des clins d'œil à ça, mais bon, ça le fouille pas totalement. Mais bon, à partir de là, voilà, c'est là où commence à apparaître sur le marché des tonnes et des tonnes et des tonnes de magazines vraiment consommateurs, avec que des passionnés qui vont écrire à la chaîne plein de tests, plein de textes et de tests. Et voilà, en fait, tout ce livre revient sur cette histoire, après sur les moments dont on a tous entendu parler de l'âge d'or de la pige. Avec des anecdotes complètement incroyables. Par exemple, ils expliquent qu'il y a une personne, donc ça c'était plus tard vers la fin des années 90, qui était pigiste et qui a vendu une solution d'un Final Fantasy pour l'équivalent d'aujourd'hui de 10 000 euros.
What?
Parce que c'était payé au signe. Ah. Et à l'époque, le feuillet était payé extrêmement cher.
Eh oui.
Et en plus, en fait, elle a revendu au sein du même groupe sa solution pour un autre magazine. Donc, hop là, x2.
Oh, c'est magnifique.
Et ce qui est très, très drôle, en fait, ils expliquent qu'à l'époque, comme la pige était payée très cher, la plupart de ces gars-là, parce que c'était quasiment que des mecs, refusaient de passer en CDI parce que c'était pas intéressant pour eux financièrement de passer en CDI. Mais ça a commencé au bout de plusieurs années, une décennie, ça a commencé à grogner parce que t'avais des pigistes qui étaient mieux payés que le PDG de la boîte.
Ça, c'est Joypad. Voilà.
C'est Joypad, par exemple. Ouais. Donc, ils étaient mieux payés que même leur PDG. Donc, ils disaient, bon, là, à un moment, ça va plus. Donc, le bouquin, en fait, montre bien cette évolution.
De l'époque.
Voilà, du moment où genre il va peut-être falloir un petit peu serrer les vis au niveau financier. Comment est-ce qu'on a aussi forcé les gens à passer en CDI, ou alors soit tu passes en CDI, soit on te divise par deux le montant de tes piges. Et après ça revient également sur toute la période qu'on connaît, sur les rachats par futur, Yellow Media, Merced, etc. Et bref, tout ce qui a fait que la presse jeux vidéo d'aujourd'hui, les grands titres se sont tous effondrés les uns après les autres. Et ont donné naissance aujourd'hui à des magazines qui sont toujours là, mais qui n'ont plus l'aura d'avant.
Finalement, c'est pareil sur tous les marchés, tu vois, non? Un petit peu. En fait, en lisant ça, tu te dis finalement rien de neuf, quoi, tu vois. Explosion, ruée vers l'or, âge d'or, concentration, et puis voilà. Et en fait, c'est triste,
C'est triste. Mais après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le bouquin, il regorge d'anecdotes. Parce que soit ils ont interrogé beaucoup de gens, ou alors ils ont utilisé des sources qui sont très, enfin toi, des sources, des podcasts ou des interviews que ces personnes-là ont pu donner, et donc c'est très vivant en fait à lire, parce que il y a beaucoup de citations, beaucoup d'anecdotes, des trucs un petit peu rigolos, des moments où tu rigoles un peu moins, c'est genre oula, c'est pas génial. Puis après il y a la journaliste économique qui parle, il y a tout un volet que j'ignorais en fait sur les magazines des années 90, en gros, quels étaient les groupes qui les hébergeaient, comment est-ce qu'ils avaient été montés, dans quelle perspective. Et tu voyais, en fait, ils expliquent très bien la différence entre les magazines qui ont été créés par des gros groupes de presse magazine et les outsiders qui, du coup, ont fonctionné avec des règles du jeu très, très différentes. Bref, tout ça pour vous dire que je vous recommande chaudement cette lecture, surtout si vous avez été lecteur de magazines de jeux vidéo dans votre prime jeunesse. Ah. Voilà, vous apprendrez plein de choses, ça c'est très bien. Et c'est
je me le note. Prestart, hein, tu dis.
Je l'ai à la maison, il faut vraiment que je
voilà, on l'avait reçu pour le journal, on avait reçu Ibrim. Et donc c'était très cool. Moi j'ai fait partie de l'école Edicorp, donc c'était avant Yellow Media.
Ouais.
À l'époque, on était, il y avait d'un côté Hachette Interactive, donc avec Joystick, Joypad notamment, et PlayStation Magazine officiel. Et de l'autre côté, il y avait Edicorp avec PC Jeux, Magazine Xbox, puis plus tard Jeux Vidéo Magazine, c'est devenu Yellow Media et tout. Et c'était du côté de Hachette qui gagnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Quoi.
Disney Hachette, ouais. C'était ça le...
En fait, ils étaient payés. Déjà, à l'époque, les piges, je pense qu'il ne faut pas donner les prix des piges à l'époque parce que je pense que tous les rédacteurs web de France qui
ont un câble,
ils vont chialer. Mais c'est vraiment du x10 à x15, je pense. Parce que payer la meilleure presse, genre la presse féminine ou la presse auto, etc. et les news, les sites de news aujourd'hui. Mais effectivement, c'est marrant parce que les magazines qui payaient le mieux pour parler d'argent, c'était clairement Joystick et Joypad. Et en même temps, il y avait une ambiance qui était tellement, quand tu les lisais, ça avait l'air tellement d'être une bande un peu hystérique.
C'était foutra, quoi.
Je pense qu'il y avait plein de gens qui devaient tenter leur aventure là-bas parce que ça ressemblait à une bande très spéciale, quoi. Tu vois, Monsieur Patate, JM Destroy et Seb et toute la bande, c'était dingo, quoi. Donc les gens normaux, ils allaient plutôt chez Edicorp.
Bah ils expliquent bien ça dans le livre, que tu vois, ces rédactions-là, en fait, elles fitaient pas du tout avec le reste des groupes de presse, enfin, les autres titres du magazine. Et donc, notamment, le fait qu'ils travaillaient en horaire décalé, il y avait énormément de gens qui travaillaient la nuit, qui, du coup, le matin, quand les autres salariés, ils arrivaient pour bosser, eux, ils repartaient. Et voilà, ils expliquaient notamment, il y avait une anecdote sur le genre, ils faisaient des courses de chaises de bureau dans les locaux. Et t'avais les gens d'à côté, genre de Téléstar, qui étaient là en mode, mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Enfin, tu voyais que c'était des cultures qui n'allaient pas forcément ensemble.
Philippe, tu lis la presse ou pas?
Je lisais beaucoup Joystick à l'époque, parce que je trouvais ça rigolo déjà. Ils étaient vraiment très drôles, Joystick. Surtout, j'aimais beaucoup, leur couverture était très belle. J'ai des couvertures mythiques de Joystick avec des artworks qu'on n'a pas forcément ailleurs. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'âge d'or des Lucasfilm, LucasArts. Et il y a un joystick spécial. C'est un génération 4 aussi. Ouais, c'est deux choses, mais il y a un génération 4 avec un Indiana Jones qui est vraiment clairement un Indiana Jones de Fate of Atlantis. Et cet artwork, je l'ai jamais vu nulle part ailleurs, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui, la JV Le Mag, là, ils font aussi des belles couves.
Ouais, j'allais dire. Voilà. C'était...
Et il y a aussi, à l'époque, il y a des choses qui n'existent plus aujourd'hui, puisque la presse papier existe quasiment plus. C'est des publicités aussi pour des jeux. Et les publicités sont cool. C'est-à-dire, j'ai des publicités que j'ai gardées de Dune à l'époque, du premier Dune de Cryo, qui sont vachement belles. Voilà. Donc moi, c'était l'époque où les jeux vidéo, il y en avait pas beaucoup sur la Terre. Et ça me faisait rêver, c'était trop beau et voilà, et c'était des gens rigolos, donc c'était chouette. Et puis il y avait des solutions aussi.
Moi, ce qui me faisait rêver dans ces magazines, dans les sections pub, c'est que tu avais plein de magasins parisiens qui faisaient leur pub dans ces magazines, notamment ceux qui faisaient de l'import notamment. Et moi j'ai grandi à Reims et certes il y avait des magasins de jeux vidéo, mais ils faisaient pas forcément de l'import. Et toi, juste voir tous ces listings genre direct du Japon, tel jeu, et moi j'étais genre, oh mon Dieu, mais vivre à Paris doit être tellement merveilleux.
demande à l'âme, tu te faisais escroquer à République après.
Chut, je vois pas de quoi vous parler, hein. De toute façon, j'étais du côté des escroqueurs.
Très bien, voilà, donc je rappelle, hein, ça s'appelle Presse Start, hein, presse comme la presse papier, bien entendu, chez Omake Book, voilà, et on vous recommande chaudement, en tout cas, la lecture.
Hey, Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.